Et j'en peux plus. Mais je vous le jure, monsieur le président, quand on voit ce qui traîne dans nos rues, faut pas s'étonner que les braves gens se fassent tuer chez eux, j'en dis pas plus. Enfin, je vais voir si j'ai de la chance. Je veux savoir ce qu'il y a dans le contrat. J'appelle Cerise de Groupama. Ah, quand je pense au coût de la vie, va me falloir un nouveau mari. Un peu plus riche que les trois derniers et un peu plus facile à tuer. C'est pas de ma faute, monsieur les jurés. Les belles promesses, j'y croirai. Moi qui ai tant besoin d'être aimée, à chaque fois je suis déçue.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, 100 mètres, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour et bonjour Sylvie.
Bonjour.
L'entonnoir, donc, on continue avec...
On va présenter encore.
Présenter.
Tu parles de l'idée que tout le monde connaît Girardot et le SPK, mais même brièvement, peut-être une petite...
Des extraits de son livre « Je ne serai plus psychiatre ». Donc, ben, Girardot, oui, c'était...
Ben d'abord, activiste. Il était psychiatre et puis après, il n'était plus.
Voilà, c'est déjà une indication... que nous donne le titre de son livre. Et il a été membre du FAR, enfin il a fondé même le FAR, F-H-A-R, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Il a donc été externe puis interne au Vinatier, à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Et c'est là qu'il a commencé à tenter de faire une révolution antipsychiatrique à l'intérieur même de la structure de l'institution. Et ensuite, il a dû... enfin, la répression s'est fait violente, et donc il a dû s'enfuir au Liban. Et voilà, il rencontre aussi Françoise Daubonne en 71 au Phare. Et avec, il rencontre aussi Alain Lezongar, et ils auront une relation amoureuse à trois. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire
Sur le SPK.
Et donc, oui, on va se focaliser un peu plus aujourd'hui sur le SPK, encore une fois, avec l'annexe 226-4, un extrait de l'annexe 4 du livre. Du livre donc Je ne serai plus psychiatre aux éditions Météor, un extrait de Faire de la maladie une arme.
Le SPK donc c'est pour ceux qui.
Alors le SPK c'est.
Ils ne sauraient pas forcément.
Le collectif socialiste de patients.
C'est allemand donc.
C'est allemand.
C'était dans les années 70, donc tout
ouais,
ça.
Oui, dans les années 70, à Heidelberg. Et donc, c'est un mouvement de psychiatrisés qui produit donc un discours théorique et aussi qui agit dans le sens de l'autogestion de la clinique, en quelque sorte, de l'autogestion de la clinique par les patients eux-mêmes, sur le modèle d'organiser le travail par les travailleurs eux-mêmes, enfin, le projet socialiste. Sinon, quoi d'autre voilà, bon, on peut peut-être commencer à dire... Alors, tu as choisi, c'est toi qui as choisi un extrait de pages 73 et 75 de... Faire de la maladie une arme. Chapitre 6, maladie et capital. Identité de la maladie et du capital. Donc là, on a comme une définition. Elle, la manufacture, estropie le travailleur. Elle fait de lui quelque chose de monstrueux en activant le développement factice de sa dextérité de détail, en sacrifiant tout un monde de dispositions et d'instincts producteurs, de même que, dans les états de la plata, on immole un taureau pour sa peau et son suif, de sorte que l'on trouve réalisée la fable absurde de Ménénius Agrippa, représentant un homme comme fragment de son propre corps. Un certain rabougrissement de corps et d'esprit est inséparable de la division du travail dans la société. Mais, comme la période manufacturière pousse beaucoup plus loin cette division sociale, en même temps que, par la division qui lui est propre, elle attaque l'individu à la racine même de sa vie, c'est elle qui, la première, fournit l'idée et la matière d'une pathologie industrielle. C'est selon le terme de pathologie industrielle vient de Karl Marx, Le Capital.
Sérieux, sur ce passage-là, j'ai presque tout compris. Enfin, j'ai compris globalement.
Oui.
Et je savais pas que je pouvais parler même un peu le marxisme. Le marxiste, je veux dire. Mais globalement, en tout cas, c'est peut-être une interprétation. Mais je pense que j'ai à peu près compris où il voulait en venir. Et c'est pas toujours le cas avec le SPK en particulier.
Alors, je poursuis. La maladie est la condition essentielle du procès de production capitaliste. Elle en est le préalable et le résultat. Le procès de production capitaliste est également un procès de destruction de la vie. Continuellement se détruit la vie et se produit le capital. Se détruit la vie et se produit le capital. Le capitalisme est dominé par le besoin primaire du capital, l'accumulation. Marx. La maladie est l'expression de la violence destructrice de vie du capital. La maladie est produite collectivement. C'est dans le procès de travail du capital que le travailleur, qui lui fait face comme à un pouvoir étranger, produit collectivement son isolement. En bonne logique, l'appareil de santé capitaliste perpétue cet isolement en produisant les symptômes non pas comme un destin collectif, mais individuel, et en les traitant comme une faute ou une défaillance. De toute manière, le capitalisme produit dans la figure de la maladie l'arme la plus dangereuse contre lui-même. C'est pourquoi il doit s'attaquer au moment progressiste de la maladie avec ses armes les plus acérées, appareil de santé, justice, police. La maladie est objectivement le fossoyeur du capitalisme en tant que force de travail défaillante, inutilisable. La maladie, c'est la limite interne du capitalisme. Si tout le monde est gravement malade, incapable de travailler, plus personne ne peut produire de plus-value. En tant que procès collectivement conscient, process, la maladie est la force productive révolutionnaire échelonnée entre la protestation inhibée, la protestation consciente, la conscience collective, la lutte solidaire. La fonction de l'appareil de santé, avec un S majuscule, consiste d'une part à maintenir et à élever le degré d'exploitabilité de la marchandise force de travail. Alors là, il y a une petite note, peut-être on va le... Note 10. Les économistes de la santé américains connaissent d'ailleurs l'influence de la situation du marché du travail sur le niveau d'exigence thérapeutique qui règle la marche des institutions hospitalières. Quand le chômage est important, la chronicisation peut se développer sans danger pour l'économie. C'est la situation américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut celle de la crise financière de 1929. De Jean-Claude Pollack, la médecine du capital. Alors, la médecine du capital de Jean-Claude Pollack, c'est aussi un livre qu'on n'a pas encore mis la main dessus, mais il me semble que c'est un livre intéressant. Bon. La fonction de l'appareil de santé consiste d'une part à maintenir et à élever le degré d'exploitabilité de la marchandise force de travail, et de l'autre, il doit veiller à ce que les industries pharmaceutiques et médico-techniques réalisent leur plus-value, l'appareil de santé représentant la sphère de circulation de l'industrie pharmacologique et médico-technique. Le malade est ainsi l'objet d'une double exploitation, la force de travail défaillante est séparée, en vue de poursuivre son exploitation. En tant que consommateur, il sert à assurer un débit régulier à l'industrie pharmaceutique et médico-technique. Le moment progressiste de la maladie, la protestation, est étouffé. Son moment réactionnaire, l'inhibition, est reproduit de manière renforcée dans le processus de guérison, réparation de la force de travail. On retire au malade son besoin de transformation. Vivre, c'est transformer, c'est-à-dire lutter contre la violence de la nature et pour son appropriation productive. Là, j'ai pas compris.
Non, moi non plus, mais c'est pas grave. S'il faut, là, on n'ira jamais des textes marxistes si on avait l'exigence de comprendre chaque phrase. Faut pas exagérer.
La protestation, c'est-à-dire l'expression de la vie, est continuellement étouffée. Meurtre organisé et permanent qui s'appelle éducation, du moment qu'il est directement commis par les institutions, de la famille, l'école, etc. L'éducation n'est pas orientée sur la satisfaction des besoins humains qui s'expriment, mais sur leur étouffement et sur la satisfaction des besoins de la violence naturelle, l'accumulation capitaliste. Ainsi, accumulation capitaliste et assassinat de masse sont identiques.
Je ne suis pas convaincue. Non. Mais je voulais dire, je trouve ça très important, à la fois cette critique du travail et l'idée de ce que font les individus pour résister à cette contrainte complètement anti-naturelle au sens profond du terme. pour dire quelle est la conception de... Enfin, il y a des anarchistes qui ne voient pas les choses comme ça, mais enfin, en tout cas, nous, par exemple, il y a quand même beaucoup d'anarchistes qui voient l'idée du travail contraint en société libertaire, je veux dire, comme quelque chose de complètement absurde d'un point de vue libertaire. C'est-à-dire que je me rappelle avoir lu une brochure elle est déjà ancienne, hein, c'était des anarchistes de Lyon qui avaient produit une brochure où ils parlaient justement de l'obligation de travailler, parce que si on n'oblige pas en société libertaire, donc les gens à travailler, bah, ils travailleront pas. Tu vois, et donc on aura l'impression qu'ils se foutent de la gueule du monde. Et il faut avoir avec cette idée qu'il faut toujours une équivalence. Si tu veux que la société te donne ce dont tu as besoin, il faut que tu donnes un truc en retour. Et donc et puis c'était dit quasiment comme ça, sinon on aurait l'impression qu'ils se fichent de nous, et puis les gens voudraient pas, et ceci et cela. Or, je vais même pas parler philosophie, mais d'un point de vue purement concret, justement en rapport avec ce qu'ils disent là. Si jamais tu veux quand même, parce que je me rappelle qu'ils disaient même qu'il y aurait un barème, c'est-à-dire que c'est l'idée de l'équivalence. Si jamais, par exemple, tu travailles une heure, tu auras, j'en sais rien, un poulet rôti, une télé en couleur. Si jamais t'as pas bien travaillé, t'auras que une télé en noir et blanc, voire une radio qui crachote. Enfin, tu vois, avec cette idée des équivalences. Mais admettons, ça paraît même très vraisemblable qu'il y ait des gens qui soient feignants, en effet. Enfin, je pense qu'il y en aura, il n'y a pas de raison. Et qu'il n'y ait pas envie de cette façon de faire. Qu'est-ce qu'ils feraient? La même chose que maintenant, à savoir qu'ils essaieraient de se faire porter pâle. Enfin, je veux dire, on va quand même pas obliger à travailler quelqu'un qui est handicapé ou très malade, malgré tout. Alors, au-delà du fait d'essayer de tomber vraiment malade, je me souviens quand j'étais petite, on essayait de tomber malade pour pas aller à l'école, par exemple, tu vois. On ouvrait grand la fenêtre, on faisait des micmacs, on mettait le thermomètre sur le... Enfin, voilà, t'essayes de faire des astuces où tu trouves un médecin de complaisance pour les adultes qui veulent pas bosser. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans une société où pour avoir l'équipe, enfin, où t'es obligé de bosser si tu veux avoir des biens matériels? T'aurais le choix entre ceux qui voleraient pour les avoir quand même, tu veux quand même la télé couleur, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois, ou alors tu fais semblant d'être malade. Alors là, ils se méfieraient, du coup, les gens qui pensent que c'est obligatoire de travailler, d'avoir des équivalences, un équivalent travail, une heure de travail égale tel avantage. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait des inspecteurs qui viennent vérifier si t'es si malade que ça. Et ça suffit pas. Si jamais tu risques pas grand chose, tu tenteras ta chance à tout hasard. Il faut que t'aies des sanctions. Donc il faut tout un système de sanctions. Tu t'imagines, je veux dire, ce que ça signifie si ton point de départ c'est l'idée du travail obligatoire. Tu vois l'idée. Enfin, je dis ça, tu vois peut-être pas le rapport avec ce qu'ils disent là, mais l'idée, c'est qu'il est tout à fait naturel que les gens ce qui est bizarre, c'est d'avoir un syndrome de Stockholm et d'être content d'aller te faire exploiter un boulot qui te plaît pas, et dans des proportions en plus que t'aurais pas voulu de toute manière. Tu vois, où c'est, faut quand même être quand même dans un drôle d'état pour avoir envie de travailler des heures par jour comme ça, oui, dans un boulot débilitant quand même. Oui, franchement.
Sur une chaîne de production.
Voilà, exactement. Ou sur un chantier, même dans un bureau. Enfin, oui. N'importe quoi. Je veux dire, tu as envie de pouvoir d'être un peu libre. Donc, c'est pourquoi je pense que on doit tabler sur l'idée du volontariat. Parce que, à la limite, si les gens, il y en a pas suffisamment qui sont motivés pour faire fonctionner une société libertaire, c'est qu'on n'est pas prêt pour ça, quoi, tu vois. Mais en tout cas, la solution est sûrement pas l'idée de la contrainte économique. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, ça, de toute manière, la critique du travail me parle, et sur l'idée d'en être réduit à même à tomber réellement malade. Enfin, on peut aller même jusqu'à des gens qui se suicident, mais même les gens sont très très malades. En effet, dans le livre dont on parlera sans doute la semaine prochaine sur les inventeurs de maladies, et puis ce qu'ils disent aussi dans le texte, l'industrie pharmaceutique fournit beaucoup les gens qui sont en mauvais état à cause du travail. Enfin, les gens sont sous calmants, tranquillisants, endormissants, réveillants. Enfin, voilà quoi, c'est antidépresseur. C'est si jamais tu tombes malade à cause de ton travail, t'as effectivement toute une batterie de médocs qui est là pour pallier à ça. Donc, c'est, en effet, je suis assez sensible à l'idée que c'est tout un, que c'est tout une, un système cohérent, finalement. Ouais. Donc, je sais pas, t'es d'accord avec, avec moi sur le travail obligatoire?
Oui, c'est-à-dire que je, c'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir une société libertaire où, qui imposerait le travail obligatoire, c'est vrai. C'est, et il y a aussi, moi j'avais pensé à un truc, c'était la, cette idée de, du revenu, du revenu, comment ça s'appelle, le revenu
minimum,
minimum garanti. Même si on ne travaille pas, on a un revenu minimum qui serait un équivalent du pas, peut-être du SMIC même, ou un peu moins. Mmh. Et on, dans ces réflexions-là, on finit par s'apercevoir que les boulots les plus contraignants, eh bien, personne ne voudrait les faire parce que tout le monde aurait choisi des activités plutôt agréables, plutôt... qui conviennent au désir de chacun et de chacune, puisqu'il y a cette, ce filet qui permet qu'on puisse vivre sans trop travailler et qu'on ait un revenu même sans travailler. Et du coup, les tâches les plus ingrates ne seraient pas réalisées, en fait.
Ben, dans un système comme celui-là, on peut pas poser les mêmes termes que dans une société où que les gens auraient globalement choisi et qui leur parlerait déjà. Il y aurait beaucoup moins de travail parce qu'il y aurait beaucoup moins de production inutile, nuisible, tu vois, déjà. Et puis, des corvées, on peut en faire à tour de rôle dans un contexte qui nous parle. C'est, on le ressent pas du tout de la même manière et ça serait pas dans les mêmes proportions. Te dire que tu vas faire, par exemple, une heure de temps en temps pour ramasser les poubelles ou, tu vois, je veux dire, ou balayer les rues, c'est pas la même chose que de dire que c'est ta fonction essentielle et que tu reviens HS chez toi, tu vois. Mais oui, je voulais dire un truc par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y avait eu une enquête par rapport à un truc que j'avais constaté autour de moi quand j'étais jeune maman, tu vois. C'est que, en fait, les femmes, c'est des femmes, des prolotes, hein, tu vois, que j'avais autour de moi au parc, à Ivry. Et en fait, le truc, c'est que quand tu viens d'avoir un enfant, tu peux, enfin, elles pouvaient avoir un an de à rien foutre, enfin, à rien foutre, pas du tout, d'ailleurs, à s'occuper du bébé, tu vois. Mais enfin, en tout cas, où elles n'étaient pas obligées de travailler. Mais il y avait une enquête et j'avais constaté que c'était vrai, j'en voyais pas mal autour de moi, c'est que, en fait, la plupart des femmes voulaient pas, enfin, au bout d'un mois, elles craquaient, quoi. Enfin, moi, je veux dire que je devenais complètement folle à être que claquemurée avec un bébé et même avec les femmes du parc que donc je pouvais pas choisir. Enfin, j'étais pas libre et tout. Mais c'est surtout que le sentiment de pas avoir de fonction sociale, même pour quelqu'un comme moi, était quelque chose qui me pesait, quoi, tu vois, parce que je pouvais même pas aller faire l'émission ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Mais les femmes autour de moi qui, donc, celles qui, et en effet, l'enquête avait démontré, statistiquement, les femmes qui arrêtaient très rapidement de s'occuper que du bébé et tout, et voulaient reprendre un boulot à la seule condition que c'était pas un métier répétitif. C'était pas le côté dur, même physiquement. Toi, par exemple, il y en avait qui même serveuse, elle préférait faire ça que d'être là à bailler aux corneilles et tout, parce que c'est des contacts avec les gens, c'est se sentir utile, parce que il y a des gens, ça dépend des gens, et des gens, ils ont pas du tout envie de se sentir utile, et ceux-là, il est pas question de les forcer, bien sûr, mais en réalité, on a quand même beaucoup ça en nous. Enfin, je trouve, la plupart des gens, je pense, aiment bien l'idée d'être utile à la collectivité, de fonctionner avec les autres et tout. D'autant que, évidemment, ça serait pas du tout dans les mêmes conditions ni les mêmes proportions. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je crois, moi, que c'est quelque chose sur quoi faut tabler. De toute manière, ça n'a pas de sens de prétendre que tu as une société libertaire en faisant qu'il doit y avoir une équivalence pour avoir ce dont tu as besoin, quoi. Tu vois, voilà.
Oui, oui. Bon, puis la société libertaire, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur l'histoire, l'histoire de l'anarchisme, l'histoire des luttes. Et en fait, la plupart du temps, dans l'histoire de l'anarchisme, c'est souvent le travailleur qui est au milieu des choses, de toutes les choses, qui est à la mesure de toutes choses presque, je dirais. C'est-à-dire le travailleur comme acteur de l'anarchisme, quoi. Et avec la première internationale, Bakounine, etc. Mais ce discours-là, ben, en fait, il est devenu peut-être un peu obsolète, du coup, que tout tourne autour du travailleur. Peut-être que même si le syndicalisme, effectivement, produit des effets de rapport de force intéressants, parfois, mais c'est surtout pour la défense du salarié et donc la poursuite de son exploitation. Ou plutôt que c'est une exploitation consentie, parce que le salarié y trouve son compte aussi. Et peut-être que là, on pourrait trouver autre chose que le travailleur comme unité individuelle de projet de société. Peut-être.
Un autre passage,
donc SPK, alors là vraiment on fait travailler la matière grise. Hein. La fonction du médecin comme agent du capital et de son dépassement. Chaque besoin, chaque symptôme a un moment progressiste et un moment réactionnaire. Donc oui, là c'est que cette théorie qui fait que la maladie est... Et à la fois le... Comment il disait au début quelque chose qui est au début et à la fin, quoi. Qui est un tenant et un aboutissant.
Mais c'est-à-dire qu'au début, si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire, et je verrai un peu comme ça, au début, c'est un acte de résistance, même s'il n'est pas totalement conscient. C'est un acte de résistance à une situation qui est humainement insupportable. C'est un acte de résistance. Ce serait un acte de résistance active. On dit beaucoup que, par exemple, il y a une espèce de résistance passive. Alors, c'est pas forcément en étant malade, mais quand à un moment donné, on voulait faire travailler une journée de plus les travailleurs, quoi. Mmh. Et je me rappelle même des ouvriers que je connaissais qui disaient, ben, on va faire la grève du zèle, quoi. Tu vois, grosso modo, on fout rien. Mais être malade. C'est aussi une façon de, ça peut être une façon de se rebeller dans un premier temps, mais si tu t'installes dans cette situation, je suppose que c'est ça qu'ils veulent dire, ben ça n'a plus le même sens si par exemple tu te retrouves complètement shooté aux médicaments et pourquoi pas interné pendant qu'on y est, quoi, tu vois.
Oui, oui.
Hospitalisé, etc. Ou là. Ça devient autre chose. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je suis pas sûr. Hein, en même temps.
Ben c'est marrant parce que la maladie, la maladie est la condition essentielle du procès de production capitaliste. Elle en est le préalable et le résultat. Le procès de production capitaliste est également un procès de destruction de la vie. Donc continuellement se détruit la vie et se produit le capital. Et en même temps, de toute manière, disent-ils, le capitalisme produit dans la figure de la maladie l'arme la plus dangereuse contre lui-même. Et finalement, la maladie est objectivement le fossoyeur du capitalisme en tant que force de travail défaillante et donc en tant que mouvement de
protestation.
Alors, voilà, c'est un peu ça, la théorie. Chaque besoin, chaque symptôme a un moment progressiste et un moment réactionnaire. Il importe d'activer et de revendiquer le moment progressiste tout en devenant conscient du moment réactionnaire comme tel. On doit comprendre le besoin de temps libre, de vie privée, comme réaction institutionnalisée et canalisée aux conditions de travail, par exemple, rendant malade. la satisfaction, entre guillemets, de ce besoin comme corruption du besoin de satisfaction provoqué par les offres de liberté de l'industrie des loisirs, le terrain de foot, l'écran de télé, le coin du bricoleur, les animaux domestiques et jusqu'aux vacances à Majorque. Le besoin de libération, le besoin de production collective de la liberté, systématiquement écartelé et morcelé par l'industrie de la conscience agissant pour le capital, sont détournés dans un besoin de consommation de la liberté comme marchandise. Cette liberté est ravalée au rang de marchandise, cette relative satisfaction du citoyen de consommation ou de l'imposture curative de la médecine, le calme et l'ordre, sont utilisés par le capital pour poursuivre et intensifier l'exploitation sur les lieux de travail.
J'ai l'impression que malgré tout, il se raconte beaucoup d'histoires sur la capacité de résistance tant qu'on n'est pas dans une période vraiment où collectivement il y a une révolte, quoi. Mais le capitalisme en a vachement sous le pied et je suis pas sûre qu'il s'en rende toujours compte. C'est-à-dire que par exemple sur l'idée de l'absentéisme, par exemple, ben maintenant qu'on est vraiment sur l'idée du chômage de masse, de l'exploitation par exemple des sans-papiers qui sont quand même limite des esclaves. Enfin, je veux dire, on les remplace, mais ouais. Je veux dire comme des Kleenex, vraiment c'est des Kleenex, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et en plus ils savent se garantir des situations d'absentéisme excessif, on va dire. Ben par exemple un truc qui est très très ancien, c'est le fait de pas vouloir les patrons qui veulent pas de femmes en âge de procréer, parce que sinon c'est elles qui vont devoir s'occuper du bébé du gosse malade, elles vont être en cloque, donc indisponibles, après le bébé est né, faut s'en occuper, enfin bon, tu vois, donc ils ont une attitude préventive. Quelqu'un qui va tomber trop souvent malade va avoir des bonnes chances de se faire remplacer, hein, tout simplement, je pense, même si c'est censé être défendu, ils trouveront bien un moyen de les mettre dans une charrette, tu vois, je veux dire, je crois que c'est franchement, pour moi, la résistance passive, c'est toujours ça de prix, et puis pour la personne, quoi, tu vois, mais pour venir à bout, même parlons même pas du capitalisme, mais des patrons, je veux dire, faut pas les sous-estimer, je veux dire, je trouve, enfin, c'est mon avis.
Oui, bah oui, mais là, donc, c'est lutte des années 70, d'ailleurs. Avec tellement d'espoir dans les esprits qu'il y avait à cette époque-là, ouais. il a dû être vraiment proportionnellement grandement déçu.
Beaucoup de gens, même des anarchistes, croyaient que on était au bord de la révolution, et même s'ils voulaient pas forcément la même chose au bout du compte, pas du tout même. Et bien malgré tout, ils pensaient que j'ai entendu même plus récemment des gens dire le capitalisme est mourant. Non non, ça va, pour un mourant il est allé au cimetière à pied. Oui. Non, franchement.
Voilà, on peut finir la lecture de cette production de vérité du SPK. La base matérielle de l'existence et de la fonction du médecin est la maladie du patient. Si la maladie est reconnue comme condition et résultat du procès de production capitaliste, l'activité progressiste du médecin ne peut que viser à supprimer sa fonction orientée sur le capital et objectivement hostile aux patients et aux malades. C'est-à-dire qu'elle ne peut que tendre à la transformation de cette société et non pas, comme on l'entend et le pratique sous une forme bâtarde, au rétablissement de la santé du patient et à l'élimination passagère du besoin de traitement qu'il y a chez chaque patient. Le retournement progressiste de la fonction médicale ne peut pratiquement advenir que dans la coopération solidaire avec les patients. Le moment essentiel de cette pratique est la socialisation des fonctions médicales. Cela signifie concrètement, la socialisation des connaissances et des expériences spécifiques du médecin et non pas leur réutilisation sur le modèle de la structure autoritaire de l'éducation et de la formation. La connaissance sensible du rôle conjoint joué par le patient et le médecin représente le fondement sur lequel s'accomplit ce procès de socialisation orienté sur une cause commune. Ce processus d'apprentissage collectif est réciproque pour le médecin et le patient et ne peut avoir lieu que sur la base de la coopération, de l'intégration du médecin au collectif des patients. Ou bien le médecin met ses fonctions au service des besoins des patients, dépassement de la propriété privée de l'art médical en tant que moyen de production, ou bien il se soumet, en vue d'avantages matériels et de son statut personnel, aux diktats des lois naturelles de la production capitaliste et travaille objectivement contre les intérêts vitaux de ses patients. Dans un cas comme dans l'autre, dans le système dominant, la facture est toujours réglée sur le compte des malades.
Oui, ben là-dessus, en effet, enfin, je trouve ça intéressant. Ça rejoint, je dirais, ça, c'est plus ambitieux que l'idée de se passer de psychiatre, parce que les psychiatres, enfin, mon avis, c'est que c'est des charlatans et que c'est abusif de les comparer à des médecins. Enfin, je veux dire, un médecin a de véritables connaissances et un médecin qui aurait des résultats aussi lamentables que les psys, je pense que au bout d'un moment, malgré tout, les patients iraient voir ailleurs, quoi, tu vois. Mais c'est pas que malgré tout, tu diagnostiques, je sais pas, une appendicite, une angine, il y a vraiment une angine, une appendicite, c'est pas comme les diagnostics ridicules que peuvent faire les psys, tu vois.
Oui.
Donc, c'est vraiment intéressant parce que moi, là, je parle comme eux, c'est des marxistes. Moi, je parle évidemment en tant qu'anarchiste. Mais c'est une objection qu'on fait souvent par rapport à l'idée de la division du travail qu'on conteste dans une société libertaire. Tu vois, l'idée qu'il y en aurait, il y a des gens qui te disent ça. Ah, il y en a, ils sont mieux pour réfléchir, ils sont mieux pour faire pour faire un métier qui a du sens. Et d'autres, ils sont bons qu'à balayer par terre. Enfin, tu vois, c'est un peu l'idée générale. Or, on a déjà cette idée que si on n'était pas dans une société de classe, des énergies, des capacités intellectuelles se libéreraient carrément. Combien de gens pourraient en effet avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir en effet diagnostiquer et puis... prescrire les remèdes appropriés, même faire de la recherche, si on pouvait libérer ces énergies qui ne le sont pas, puisque des gens qui seraient tout à fait avides de faire ça, bah ne peuvent pas le faire. On les met à l'usine ou sur un chantier. Enfin, c'est quelque chose qui est très important. Et pourtant, c'est ce qu'on te dit souvent. Bah oui, mais faudrait bien qu'il y ait des chirurgiens. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Sans aller jusqu'à dire tout le monde. Moi, j'aurais pas tellement envie de faire ça. Mais pour moi, premièrement, il y aurait effectivement plein de gens qui seraient intéressés pour savoir comment, enfin, pour apprendre d'ailleurs dans des tas de domaines des connaissances qu'ils n'ont pas la possibilité d'apprendre faute de temps et d'énergie, tu vois. Mais et puis le fait aussi qu'on leur rabat qu'ils seraient incapables de le faire. Mais en plus, un truc qui semble évident, c'est un peu ce qu'ils disent aussi, c'est que dans une société où les gens ne seraient pas aliénés, pour des tas de raisons, c'est un peu le propos du film Bon pied, bon œil et toute sa tête. Bon, pour des tas de raisons, il y aurait beaucoup moins de handicaps, de maladies, d'accidents. Tu vois, déjà, tu n'aurais pas les accidents que tu as parce que tu travailles à Pétaouchnok, tu dois y aller en voiture complètement épuisé, tu vois. Tu n'aurais pas les accidents du travail parce qu'il ne serait pas question que toutes les conditions comme aujourd'hui soient réunies. Le stress ne te rendrait pas malade comme c'est le cas. Tu n'aurais pas la pollution qui te rendrait malade, etc. Donc, de toute manière, on peut pas prendre les conditions actuelles et puis les transposer dans une société qui serait un minimum saine. Tu vois ce que je veux dire. Donc, en effet, c'est tout un écosystème qui fait que la médecine, tout ce qui est psy, médecine, et puis les conditions de travail, tout ça fonctionne en synergie. Enfin, je
ne
sais pas si je me...
Si. En comptant dans ta liste tout ce qu'on prend pour tenir le coup, comme psychotropes et licite et illicite, en vente libre ou sur ordonnance, etc., pour pour supporter.
Oui, même l'alcool.
L'alcool, voilà.
L'alcool, la drogue, les tranquillisants, les. Ouais. Non, c'est vrai, c'est tout ce qui est à la fois ce qui vient du stress et puis qui est destructeur en effet. Et à la base, il y a l'avidité des patrons quoi, qui en effet te voient comme un simple outil.
Ouais, puis dans ce passage là, il y a aussi cette idée du sachant, celui qui sait, qui est donc de par son savoir a un pouvoir. Mm. Et sur ceux qui sont dans l'ignorance enfin, des choses. Et il s'agit là enfin, de démocratisation, entre guillemets, c'est-à-dire d'une distribution du savoir-pouvoir pour une autonomie de chacun, quoi, en quelque sorte.
Oui, Ben.
Non, oui, c'est à peu près tout.
Juste pour anticiper un petit peu par rapport à. Peut-être on le dira peut-être après peut-être une pause musicale, tu pourras peut-être passer courge.
Oui, on va passer un peu de courge, et puis après tu feras tu as des annonces à faire, hein, c'est ça?
Ah ben j'en ai une, après, oui. Mince, j'ai pas pris avec moi, mais
non,
c'est
pas
grave.
Mais...
Donc courge est le groupe, enfin d'ailleurs je crois que la plupart du temps il est tout seul, du dessinateur de BD anarcho-punk Matt Conture, dont vous pouvez trouver les bandes dessinées, en particulier Sclérose en plaques, et c'est un génial dessinateur, t'es d'accord avec moi Denis j'espère?
Oui, j'adore.
T'adores, ouais. Non, il est génial, c'est vrai. Et donc, il raconte sa sclérose en plaques, puisque ses BD sont toutes autobiographiques. Et donc, Courge, c'est le groupe de Matt Conture.
Car je suis ça pour qui crée. soleil.
Toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Donc, tu peux lire, tu l'as sous les yeux, l'annonce du débat du 10, donc, attends, c'est le 10, oui. Le 10 novembre, alors, ouais. Le groupe Libertaire d'Ivry, dont je fais partie.
La clé dans le...
Voilà. Organise une projection débat.
Exactement. J'attends qu'elle s'affiche. Hein.
Je peux dire en attendant. C'est donc le thème du débat, c'est jeux vidéo et politique. Autant vous dire que c'est pas. Enfin, après, on peut pas forcément éviter. Hein, mais c'est pas une polémique sur le jeu vidéo. C'est plutôt par rapport au sexisme et par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme propos craignos qui peuvent être tenus, parce que le jeu vidéo, comme n'importe quel support, ça peut véhiculer des idées de vraiment tous les bords. Malheureusement, comme pas plus qu'ailleurs, mais comme ailleurs, il y a du sexisme premièrement dans l'industrie de, enfin pour dans l'industrie du jeu vidéo, quoi. Et puis, il y a des statistiques un peu beaucoup là-dessus. Et puis, ça c'est par rapport à la conception même des jeux, quoi. Donc, on va voir s'il existe d'autres types de des jeux alternatifs par rapport à ça, des jeux antisexistes, ouais. Antiracistes, et pourquoi contre le capital, contre la religion, contre l'État. Enfin,
des jeux vidéo
et puis pourquoi
anarchiste.
Pas carrément anarchiste, oui.
D'accord. Alors ça se passe le dimanche 10 novembre 2024 à partir de 16h, accueil dès 15h, entrée libre à l'invitation donc du groupe Libertaire d'Ivry, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Voilà, il y a d'autres annonces, mais... Je les ai pas sous l'œil, sous les yeux. Ah oui, il n'y a pas peur des ruines.
C'est quoi ça?
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le mercredi 13 novembre. 13 novembre à la librairie Publico. Et c'est après ne vivons plus comme des esclaves, je lutte donc je suis et l'amour de la révolution et la révolution. Un nouveau film de Yanis Yuluntas, Nous n'avons pas peur des ruines. Voilà, donc à Publico. Et à l'Étoile Noire à Laon, le 14 novembre. Voilà. Donc je pense que c'est. Il n'y a pas marqué l'heure, mais ça doit être le. Ah oui, 19h. 19h à Publico, le 13 novembre.
Bah, vous pouvez voir les informations sur toutes les activités, elles sont très nombreuses, de la librairie Publico sur le site librairie Publico Info. Vous tapez ça sur un moteur de recherche quelconque. Et donc, vous voyez s'afficher tout ce qu'il peut y avoir comme événement, comme ça à venir. Il y en a vraiment beaucoup, y compris le dimanche. Voilà.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore vous proposer pour les dernières 10 minutes, le dernier petit quart d'heure de l'entonnoir d'aujourd'hui sur Gérard Hoff? Eh bien, un truc assez court là, c'est l'annexe 6 du livre. Le communiqué des auteurs est triste de l'attentat de Fessenheim par le commando Puigantisch-Ulrike-Meinhof, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur collectif, en hommage, en solidarité avec ces deux militants et militantes. Donc, on disait que Gérard Hoff a rencontré Françoise Daubonne en 71 au Phare. Ils se reverront en 74 et commencera alors une relation amoureuse à trois avec Alain le Zongar, rencontré un peu plus tard. En 1972 avait eu lieu la première grande marche contre le nucléaire civil. Françoise Daubonne, dans ses réflexions politiques, lit depuis Histoire et Actualité du féminisme, Écologie et féminisme. En 1974, elle publie « Le féminisme ou la mort » à la suite de la mise en place du plan Messmer dès le premier semestre de 1975. Il et elle décident de saboter la centrale de Fessenheim.
Faut toujours le préciser, elle était en construction. Ils n'ont pas, pas fait exploser une centrale nucléaire en activité au nom de l'écologie.
Petite précision sur cette... sur le plan Messmer. En 1974, Pierre Messmer, premier ministre de l'époque, lance un grand plan d'indépendance énergétique. Premier grand plan nucléaire civil en France, avec la construction par EDF de 13 centrales nucléaires sur le territoire. Nous avons décidé de lancer entre 1974 et 1975 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs chacune. C'est une décision extrêmement importante, déclarait alors le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Ce plan nucléaire fait suite au début de la construction de la centrale de Fessenheim en 1971. Ils feront ensemble, Françoise Daubonne et Gérard Hoff, des repérages, de nombreux repérages entre Markolsheim en Alsace et du côté allemand à Wil. Françoise Daubonne écrira dans ses mémoires « Ce fut le sommet de ma vie, mais je n'ai pas envie d'en parler ». Elle romancera l'épisode dans son roman Terrorist's Blues, dans lequel Hoff apparaît sous les traits de Dr. Phil Good. Il et elle signent l'attentat du nom de commando Puigantich Ulrike Meinhof, montrant leur proximité.
Excusez-moi, c'est qui le Dr. Phil Good ?
Dr. Phil Good, c'est à l'époque, c'était... il me semble que... Enfin, moi, pour moi c'est surtout le nom d'un groupe.
Ah, oui, justement, mais
ouais,
je...
C'est un groupe...
c'est bizarre de prendre ce nom, enfin bon,
voilà, je sais pas, c'est... Mais c'est peut-être une référence déjà de ce groupe-là à quelque chose d'autre que j'ignore. Montrant leur proximité, du moins sensible, avec les groupes radicaux armés de l'époque. Alors, Salvador Puigantich, anarchiste catalan, membre du mouvement ibérique de libération, qui sera exécuté par le régime franquiste le 2 mars 1974. Et Ulrike Meinhof, membre actif de la fraction Armée Rouge, est condamné en Allemagne à 8 ans de prison en novembre 1974.
Gérard Hoff, juste une précision. Oui, d'accord, il a essayé de faire sauter partiellement une centrale il faisait du sabotage d'une centrale nucléaire en construction, mais je crois pas qu'on l'ait jamais accusé de violence envers des personnes. Parce que, je veux dire, à l'époque, dans d'autres passages du livre, on faisait allusion à des groupes... à l'époque, ça avait l'air de pas mal se faire, quoi. Même le genre action directe qui va tuer quelqu'un. Oui. Lui, il n'a jamais tué personne. Il n'a jamais été accusé d'avoir été violent envers des gens.
Oui, même...
Voilà. Non, c'était juste une précision.
Oui, mais même à la différence, oui, de groupes comme la fraction Armée Rouge, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Oui. Alors, il existe deux photos d'archives de Gérard Hoff et Françoise Daubonne posant devant une cabane avec en légende « Nous avons trouvé les explosifs ». Donc, tu as une photo avec eux deux devant une cabane. Enfin, ils ont trouvé les explosifs. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant là, c'est le communiqué des auteurs de l'attentat de Fessenheim qui a été publié dans Libération le 7 mai 1975. Le communiqué... Oui, dans Libération, on trouvait des articles... Enfin, des petites choses comme ça. C'est fini aujourd'hui, évidemment. Le communiqué des auteurs de l'attentat de Fessenheim. Nous revendiquons ce qui vient de se passer à Fessenheim. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour que ne soit menacée aucune vie humaine. C'est ainsi que nous contribuons au combat antinucléaire, espérant arrêter ou retarder le fonctionnement de cette centrale, attendu qu'ensuite il serait trop tard pour employer ses moyens. Le capital n'hésite plus à passer de son génocide traditionnel, guerre, usine, prison, au génocide plus radical que représente, entre autres, bombe à dépression, l'industrie nucléaire. Plus de temps pour polémiquer. La défense de l'atome est grotesque dans la bouche de gens qui ont pourri de mercure les eaux du Rhin, plus encore que celle de Minamata, où le capital se défend avec Mirador et Barbelé contre la colère du peuple.
Minamata, il y avait des enfants qui étaient nés mal formés à cause du poisson qui était très très empoisonné au mercure.
Oui, d'accord. Nos ennemis sont les mêmes, au Japon comme ici, les multinationales. La pollution est elle-même une bonne affaire pour les multinationales qui vendent ce qui ne l'avait jamais été, l'oxygène et l'eau, devenues marchandises. Notre action, non contradictoire avec les mouvements populaires comme ceux de Will ou Markolsheim, est l'expression de la protestation primordiale de la vie contre le capital, coupable de génocide, dernier stade de la société patriarcale d'oppression. Le maintien du salariat lui-même est devenu un non-sens meurtrier. Nous n'avons pas plus besoin d'énergie nucléaire que de travailler tout le jour à produire des gadgets. La productivité forcenée est devenue l'ennemi planétaire. Et le combat du prolétariat des pays développés rejoint objectivement celui des pays du tiers-monde. Qu'ils soient des femmes, des enfants du tiers-monde ou du prolétariat, le combat se doit être total. Rappelons que les femmes à Will, 70% de non-féminins à l'atome, donc c'était un Will référendum, comme ailleurs, sont à l'avant-garde du refus nucléaire, ce qui n'est que le dernier mot de cette société bâtie sans elle et contre elle. Et voilà, c'est signé donc Commando Puy Grantich Ulrike Meinhof.
On va... Donc on peut peut-être annoncer qu'on va parler la semaine prochaine du livre ouais. Les inventeurs de maladies.
Les inventeurs de maladies de Jörg Blech, avec pour sous-titre Manœuvre et manipulation de l'industrie pharmaceutique, un essai traduit de l'allemand par Isabelle Libert, et c'est paru aux éditions Babel.
Je suis pas sûr que c'était réédité.
C'était en 2008, je crois.
Ouais. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé très très intéressant et très bien documenté, mais sur les conclusions, les remarques qu'il faisait, je dirais d'un point de vue quasi philosophique, quoi. Oui. J'ai pas toujours été d'accord. Donc, je te dirai tout à l'heure les passages que j'ai trouvés sujet à discussion. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment édifiant. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ont la molécule, il suffit de trouver la maladie qui ira avec. Ouais.
Voilà. Je crois qu'ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui.
Peut-être un petit coup de mat de conture avant de partir.
Avec plaisir. Eh bien, au revoir.
Au revoir à tout le monde.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Aux énusons, tu casses-tu.